Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le magazine du week-end, c'est samedi et dimanche, 1h20 de décryptage de l'actualité, aussi bien nationale qu'internationale. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h et pour toujours sur franceculture.fr, à la réécoute et en podcast. Une semaine cruciale vient de s'achever pour l'Europe entre nomination au top jobs et rentrée du Parlement européen. Mais est-ce que l'équilibre trouvé entre les forces politiques respecte vraiment le résultat des dernières élections? On en parle à 13h15 avec nos invités, l'eurodéputé Pascal Durand et la journaliste Anne Rovan. Avant cela, penchons-nous sur le cas de la droite en France, ou plutôt des droites, puisque les Républicains semblent chaque jour s'émietter un peu plus. Le parti se réunit aujourd'hui en convention pour redéfinir ses valeurs et tenter de retrouver un espace politique grignoté à la fois par La République En Marche et par le Rassemblement National.
Depuis 7 ans, on a perdu 2 présidentielles, 2 législatives et un résultat très mauvais aux élections européennes. Je pense qu'il y a besoin de rassembler notre famille politique. Un certain nombre de nos amis l'ont quitté. Ce travail aujourd'hui, j'y vais pour cela parce que je pense être celui qui sans doute a peut-être le plus cette capacité à la fois de rassemblement, de réorganisation et de faire travailler les gens ensemble. C'est ce que nous avons fait au groupe parlementaire et tout le monde reconnaît plutôt l'action qui a été la mienne dans ce cadre-là. Et c'est cela que je veux faire. Mais ça, c'est tout sauf de l'eau tiède. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut, sur l'année qui vient, sortir sur un certain nombre de propositions, aller sur des sujets où la droite ne s'est pas suffisamment positionnée, l'environnement, je pense aussi sur le rapport au progrès.
On a besoin d'une droite conservatrice. On a besoin d'une droite conservatrice. Pourquoi ? Parce que ça correspond à une sensibilité de la droite qui est estimable, qui est respectable et qui a besoin aussi de se reconnaître dans un parti politique. Voilà. Et moi, je crois que si nous n'incarnons pas aussi, dans le cadre de l'alliance de Gérard Larcher, cette droite conservatrice, beaucoup de nos électeurs partiront au Front National. Et je suis de droite, je suis de droite, je suis de droite.
On peut être libéral ou pas libéral, y compris dans la même formation politique. On peut être plus colbertiste ou totalement ouvert au vent de la liberté économique. Nous avons besoin de refonder un vrai projet. Qu'est-ce qu'être de droite et du centre? C'est d'ailleurs ce à quoi je m'attelle.
Les ténors de la droite tiraillés entre conservatisme et libéralisme, vous aurez reconnu Christian Jacob qui dirige le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et qui est bien placé dans la course à la direction du parti. Valérie Pécresse qui a quitté récemment Les Républicains et Gérard Larcher qui préside le Sénat. Ce samedi 6 juillet donc se tient au siège du parti Les Républicains à Paris une convention afin de redéfinir la charte des valeurs et des engagements. Première étape de la reconstruction d'un parti sérieusement secoué par les mauvais scores aux européennes, le départ de figures emblématiques comme Valérie Pécresse, dont on vient d'entendre Xavier Bertrand, l'offensive de La République En Marche en prévision des municipales, la question enfin de l'alliance ou non avec le Rassemblement National, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Une quinzaine d'élus ont ainsi dîné avec Marion Maréchal, c'était fin juin. Mais pourquoi partir des valeurs plutôt que de faire des propositions politiques et de montrer clairement sa différence sur des sujets comme au hasard la privatisation des aéroports de Paris, la signature du CETA ou la réforme de l'assurance chômage? On en parle avec nos invités en studio ici à Paris avec nous. Jérôme Fourquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP et vous êtes l'auteur cette année de L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée aux éditions du Seuil, un livre qui a reçu le prix du livre politique 2019 et qui traite justement de cet éclatement de la vie politique française. Mais on est aussi au téléphone avec Annie Genevard, députée Les Républicains dans la 5e circonscription du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale, secrétaire générale des Républicains depuis décembre 2017. Bonjour madame.
Bonjour, bonjour à Jérôme Fourquet.
Bonjour à vous.
C'est un plaisir de recevoir à l'Assemblée.
Alors je vais vous adresser ma première question évidemment à Annie Genevard, puisque l'actualité, je le disais, c'est cette convention des Républicains appelée à redéfinir les valeurs. Jean Leonetti, qui assure la présidence par intérim du parti depuis le départ de Laurent Wauquiez, justifie cette convention par un besoin de clarification pour une refondation, une ligne politique claire. Aujourd'hui, la droite ne sait plus qui elle est. Le but de cette convention serait donc de déterminer ce qu'elle est en interrogeant les Français. Qu'est-ce que vous en attendez, vous?
Cette convention a plusieurs fonctions. D'abord, la première fonction, elle est une affirmation politique que les Républicains sont toujours là et debout. Et c'est un message adressé aux Français, à tous ceux qui ont pu être troublés par le discours tenu par nos adversaires politiques qui ont considéré, après notre échec aux européennes, qui ont considéré un peu vite que les Républicains avaient disparu du paysage politique. Donc c'est d'abord cette affirmation-là. Ensuite, nous sommes toujours recherchés en responsabilité vis-à-vis des uns et des autres. Est-ce que finalement Emmanuel Macron ne couvre pas votre espace? Est-ce que vous ne vous rapprochez pas trop du Rassemblement national? Eh bien, plutôt que de dire ce que nous ne sommes pas, nous avons opté pour la voie de l'affirmation de ce que nous sommes. Et c'est le sens de cette convention d'aujourd'hui. Et puis, la troisième fonction est un peu plus organisationnelle. Nous aurons mi-octobre l'élection de notre président. C'est aussi l'occasion de dire aux cadres de notre mouvement, hein, puisque c'est une réunion, une convention qui est à destination de nos cadres, comment vont se passer les élections.
On y viendra évidemment à cette élection importante pour le Parti Les Républicains, mais pourquoi fallait-il, selon vous, passer par la question des valeurs? Est-ce que c'est elles, ces valeurs, qui commandent aux choix économiques, sociétaux, politiques? Je le disais, vous auriez pu faire aussi un certain nombre de propositions sur l'immigration, le chômage, la relation avec l'Iran, la fin de vie, qui sont des sujets qui aujourd'hui sont dans l'actualité, par exemple, Annie Genevard.
Parce que je crois qu'il faut commencer par les fondamentaux, c'est-à-dire la base, les fondations. On ira sur les propositions. Du reste, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous y sommes en permanence dans le débat parlementaire. Chaque fois qu'un texte de loi est examiné, nous sommes évidemment sur les propositions et les contre-propositions. Mais avant d'entrer dans le concret de l'action, il faut réaffirmer un certain nombre de principes, ne serait-ce que pour donner un cap, une boussole à tous ceux qui ont été très troublés par nos échecs successifs, auxquels il est bon de rappeler un certain nombre d'idées forces qui constituent l'ADN de la famille de la droite.
Quelles sont ces idées, selon vous ?
Nous avons organisé la réflexion autour de quatre verbes. Croire, croire en la France, en l'Europe, en l'homme. Défendre l'autorité de l'État et la sécurité publique. Défendre les plus fragiles. Défendre notre mode de vie et nos frontières. Le troisième verbe, c'est libérer. Libérer les initiatives, libérer le travail, libérer les territoires. Et enfin, transmettre. Transmettre les savoirs, transmettre un monde préservé et transmettre une vision éthique de la science et du progrès scientifique. Autour de ces quatre verbes qui se déclinent en 12 items, eh bien, c'est de là que partiront les propositions. Il ne faut pas inverser la charge considérer que ce n'est qu'en proposant des mesures qu'on arrivera à dessiner dans l'esprit des Français, parce que nous n'ambitionnons pas de nous adresser qu'à nous-mêmes, redessiner dans l'esprit des Français les contours de cette droite, contours qui se sont estompés depuis 2 ans sous les coups de boutoir de nos échecs aux élections, et puis aussi sous les coups de boutoir d'une majorité qui se croit toute puissante et qui considère au fond que la France est prête pour un bipartisme à l'anglo-saxonne, alors que nous sommes convaincus qu'il y aurait là un grand danger pour la démocratie à n'instaurer le débat qu'avec les extrêmes. Donc c'est aussi la réaffirmation de la nécessité d'un espace politique. C'est difficile.
C'est difficile parce que c'est vrai que c'est un espace qui a été énormément grignoté, je le disais, à la fois par La République En Marche et par le Front National, chaque bout de l'omelette qui sont si chers à Alain Juppé, Annie Genevard. Vous dites croire, défendre, libérer, transmettre, ce sont des verbes qui remplacent des substantifs qui étaient jusqu'à présent travail, autorité, nation et transmission. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur le site du parti Les Républicains. Mais est-ce que ce sont vraiment des verbes qui sont de nature, comment dire, à fédérer une majorité, enfin pas une majorité, justement, à fédérer un groupe d'opposition qui est aujourd'hui parfois un peu dans la confusion? Je parlais d'Aéroports de Paris, par exemple. On voit certains députés qui soutiennent l'initiative d'un référendum, d'autres non. On voit ces élus, alors qu'il n'y était pas beaucoup de députés ou de sénateurs, mais il y en avait aussi qui vont dîner avec Marion Maréchal. Est-ce qu'il suffit de définir 4 verbes et 12 items pour véritablement rassembler une famille dans un espace politique qui a considérablement changé. Est-ce que vous prenez vraiment la mesure de ce changement, selon vous, avec cette démarche, Annie Genevard?
Alors, je pense qu'on l'a parfaitement pris en compte et on en a mesuré l'ampleur. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'être à l'offensive, de rester debout, parce que sans cela, c'est un scénario extrêmement réducteur pour les Français qui se présenterait à eux. On sait que c'est pas facile, on sait que ça passera aussi par l'incarnation, non pas d'un chef providentiel qui se présenterait aux élections, à l'élection présidentielle dans 2 ans et demi, mais ça passe par un profil qui sera un profil de rassemblement, un profil diplomate, un profil qui pourra être en capacité de faire en sorte que les gens se reparlent à nouveau. Parce que moi, ce qui me frappe depuis quelque temps, et je pense qu'il faut vraiment lutter de toutes nos forces contre ce danger, c'est que dès lors que l'opinion est différente, eh bien, il y a une espèce d'ostracisation, de diabolisation des positions des uns des autres. En revanche, ce qu'il faut que nous retrouvions, c'est de la cohérence. Et en particulier, dans le domaine économique et social, où là, si dans le passé nous avons pu faire coexister des gaullistes sociaux et des libéraux, aujourd'hui on voit bien que les chemins du dialogue sont perdus, que les gens n'arrivent plus à se reparler. Et c'est impératif néanmoins que nous retrouvions de la cohérence parce que c'est la condition de la crédibilité. Alors les mots ne suffisent pas, bien sûr. Mais il faut en passer par la confrontation des idées et le dégagement d'une ligne qui soit claire et cohérente, que les Français identifient comme étant notre voix et pas celle que peut porter par moment l'un ou l'autre acteur majeur de la vie politique.
Alors, voilà. J'aimerais entendre Jérôme Fourquet sur ce que vous venez de dire et je vous poserai une dernière question ensuite à Annie Genevard. Jérôme Fourquet, Annie Genevard nous dit il faut que la droite, en tout cas la partie des Républicains, retrouve une cohérence et surtout retrouve une capacité à se parler. On se souvient que c'était évidemment la grande réussite de l'UMP, voulue par Jacques Chirac et prise ensuite par Nicolas Sarkozy, de réunir ces fameuses droites françaises. Est-ce que aujourd'hui la condition politique, la situation politique telle que vous l'analysez dans l'archipel français, vous semble de nature à permettre justement cette cohérence et cette capacité à se parler les uns les autres?
Alors, une capacité à se parler, peut-être, ça dépend de la volonté de chacun des individus. Il faut voir néanmoins que deux choses fondamentales ont changé par rapport à la période précédente concernant la droite. D'une part, ce qui faisait tenir beaucoup de ces une grande partie de ces différentes familles de droite ensemble, c'était la perspective d'une victoire et le sentiment d'appartenir à une coalition électorale, puisque comme Madame Genevard l'a dit, les droites françaises ont toujours été multiples, mais il y avait une force de coagulation, une force centripète qui les faisait tenir ensemble. C'était l'idée de se rassembler pour peser et constituer une des principales formations de gouvernement. Depuis 2017, cette condition apparaît de moins en moins évidente, et donc nous avons les forces centrifuges qui se sont mises en branle. Et on arrive là, du coup, au deuxième changement majeur, c'est que quand on entend Gérard Larcher dire « il faut que nous rassemblions la famille de la droite et du centre », on a l'impression d'entendre des ténors de la droite en 2002, au moment de la création de l'UMP. Sauf que quand on se marie ou quand on s'allie, il faut être deux. Et on peut constater, objectivement, que depuis 2017, les centristes, derrière François Bayrou, bon, qui ne faisait pas partie de l'UMP, mais lui plus toute une partie de du centre français ont rallié Emmanuel Macron, et que depuis le début de ce quinquennat, la grande affaire du quinquennat pour Emmanuel Macron, c'est quand même d'élargir sur sa droite son assise électorale, d'où la nomination de Monsieur Philippe à Matignon, de Bruno Le Maire à Bercy, d'où la politique économique qui a été menée. Et tout ça s'est terminé en fin de parcours ces derniers mois, avec le soutien plus ou moins affiché pour la liste En Marche aux européennes de messieurs Raffarin et Juppé, qui sont quand même rien de moins que des pères fondateurs de l'UMP. Donc on voit que non seulement le centre, mais toute une partie de la droite modérée a quitté avec armes et bagages. Et donc on peut essayer de dire il faut recréer de la cohérence, il faut qu'on se parle de nouveau, mais il y a toute une partie des cadres et des électeurs qui sont partis.
Annie Genevard, une dernière question, puisque justement on voit cette difficulté, avec ces forces centripètes décrites par Jérôme Fourquet à l'instant. Il faut bien trouver quelqu'un pour mener la bataille. Vous le disiez tout à l'heure, ce sera en octobre la désignation du nouveau président du parti Les Républicains. On parle de Christian Jacob, on parle parfois même d'une candidature unique pour éviter les déchirements de Christian Jacob. Est-ce que vous avez, vous, un favori, ou au moins un portrait robot, si vous ne voulez pas vous déclarer dès maintenant sur un favori, Anne-Geneviève Varacquet? Quoi doit ressembler, quelles doivent être les conditions, en tout cas réunies par ce futur président du parti Les Républicains?
Alors je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fonction du chef de parti, chez nous en tout cas, aux Républicains, a changé. Ce n'est plus le
chef fait pour chefer.
Naturel qui, voilà. Si, c'est un chef, mais ce n'est pas forcément celui qui portera les couleurs de la droite. Et du reste, on a veillé à ce que, dans les conditions d'éligibilité, il puisse y avoir l'engagement de ne pas se présenter à l'élection présidentielle, précisément pour apaiser les tensions qui pourraient exister entre les différents candidats potentiels. Et puis, je crois que dans le profil de ce chef de parti, il faut absolument quelqu'un qui soit en capacité de faire ce travail de retissage des liens sans lesquels on ne pourra pas demain, comme le disait Nicolas Sarkozy, chassé en meute, parce que seul le groupe est en mesure d'emporter, de faire entrevoir la perspective de la victoire électorale. Comme le disait Jérôme Fourquet, bien sûr, les lendemains de défaite sont des moments très exposés à la désunion. Mais quand il y a une perspective de victoire ou de duel équilibré qui se profile, les gens, naturellement, portés par cette perspective et cet espoir, peuvent se rassembler. Ce qui est certain, c'est que nous ne devons pas non plus être complètement obsédés par nos organisations internes, notre organisation interne, nos questions de bataille d'ego, de querelle de chef. Il faut qu'on soit surtout en mesure de dessiner des perspectives pour les Français. Parce que nous considérons que si Emmanuel Macron a essayé de donner le sentiment qu'il couvrait tout le champ politique, on voit bien qu'il essaie de créer un agir de gauche, comme il a suscité la création du micro-parti Agir à droite pour, en quelque sorte, fabriquer une apparence de coalition. Nous devons impérativement résister à cette stratégie du parti unique, d'abord parce qu'elle n'est pas dans nos gènes, elle n'est pas souhaitable. Donc voilà.
Et Christian Jacob, il a le profil justement pour mener ce que vous venez de décrire, Anne-Geneviève?
Il a ce profil. Il a à la fois l'expérience politique qui est indispensable dans les périodes de gros temps. Il faut stabiliser le bateau. Je pense que donc il faut un capitaine expérimenté. Il a cette expérience. Il a cette surface politique. Il a cette expérience du groupe qui n'est pas une fonction facile. Hein. Présider un groupe, ça n'est pas facile. Et puis, je crois que il a une fidélité à sa famille politique qui n'a jamais été prise en défaut. Et de ce point de vue, je pense que, et malgré l'amitié que je peux avoir pour les autres candidats à la candidature, je crois que Christian Jacob a véritablement ce profil. Mais en tout état de cause, que ce soit les uns ou les autres, ce sont des hommes de qualité et qui seront à même, s'ils remplissent les conditions de la candidature, qui seront à même de mener une campagne respectueuse, parce que on a aussi besoin de cela. La primaire a laissé des traces terribles. Je n'oublie pas que les premiers coups portés contre François Fillon ont été portés par l'un des nôtres, Alain Juppé. Et je pense que, si vous voulez, je pense que c'est dès l'échec d'Alain Juppé qu'Alain Juppé a quitté les Républicains. Et beaucoup de choses s'expliquent aussi par cette primaire qui a été dévastatrice pour notre famille politique. Il faudra impérativement que nous trouvions le moyen de pouvoir choisir notre candidat en 2022.
Pour la présidentielle, qui reste évidemment l'élection mère de toute la politique en France. Merci beaucoup, Anne-Geneviève. Je cite quand même, en effet, les autres candidats à déclarer pour l'instant, que sont Julien Aubert et Guillaume Larrivé à la présidence du parti Les Républicains. Je signale aussi que Agir, le mouvement dont vous avez parlé brièvement, c'est celui de Franck Riester, qui est donc maintenant ministre de la Culture. Merci, Jérôme Fourquet. Et merci beaucoup, Anne-Geneviève. Je vous libère. Et je reste avec vous, Jérôme Fourquet, ici en studio à Paris. Je rappelle que vous êtes le directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP et que vous avez publié donc l'archipel français Naissance d'une nation multiple et divisée. C'était aux éditions du Seuil. On entend la difficulté dans laquelle est aujourd'hui le parti Les Républicains, ne cesse que parce qu'il se reconstruit sur les valeurs. Et donc on se dit que les valeurs, elles sont avant tout conservatrices, même si on sont matinées de libéralisme aujourd'hui. Mais le libéralisme est quand même occupé assez largement par La République En Marche. Et donc on a un espace politique qui est très très réduit et qu'il s'agit de c'est pas définitif, mais voilà, qu'il s'agit de faire grandir.
Alors c'est l'enjeu, mais Alain Juppé avait, pendant la primaire de la droite, vous l'avez rappelé tout à l'heure, employé cette formule, il faudra bien qu'un jour on finisse par couper les deux bouts de l'omelette. Et donc il appelait de ses voeux à la constitution d'un vaste bloc central, avec des gens de bonne volonté, pour reprendre une citation d'un autre auteur, Alain Minc, pour ne pas le citer, on était, voilà, en gros, il fallait rassembler le cercle de la raison, avec tous les gens qui, sur la nécessité d'adapter le modèle économique social français à la mondialisation, de poursuivre la construction européenne, de mener un agenda de réforme, était d'accord sur ces grandes lignes. C'était un vieux mantra qui existait dans toute une série de milieux. Bon, ben c'est Emmanuel Macron qui a tenu le couteau et qui a coupé les deux bouts de l'omelette. Et aujourd'hui, nous avons un bouleversement politique majeur avec... Alors tout ça est encore récent, et comme dirait Édouard Philippe, la poutre travaille encore, mais... L'avènement d'un bloc central constitué autour d'Emmanuel Macron change considérablement la donne. À la fois pour la gauche, on en a parlé dans votre journal avant, la gauche sociale écologiste n'est pas tellement en meilleure forme que la droite républicaine. Et les républicains sont aussi, ces deux forces ont vu leur espace se réduire. Tout se passe comme si, moi je ne crois pas à la disparition à brève échéance des Républicains ou du Parti Socialiste, mais ils peuvent être durablement ravalés au rang qui était celui du Modem dans le monde d'avant. C'est-à-dire que vous existez, vous avez des élus locaux, vous avez un créneau qui est à peu près identifié, mais vous rassemblez 8 à 15%, 12, 13% du corps électoral, ce qui fait de vous une force conséquente, mais dont les électeurs se disent qu'elle n'est plus en capacité d'accéder au second tour, et vous perdez votre capacité d'agrégation.
Même si, Jérôme Fourquet, on a vu notamment lors des dernières élections présidentielles qu'aujourd'hui on passait au second tour avec, on n'est plus à 30% au premier tour des présidentielles, ouais, mais aux alentours de 22, 23%. Et donc il suffit de peu. On a vu que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, avec les Insoumis, était passé à être très près de pouvoir passer au second tour. Donc finalement, on peut se dire, vu la volatilité de l'espace politique français aujourd'hui, que maintenir une force qui en effet émarge à 12-13% dans des élections intermédiaires, tout d'un coup, lors d'une élection présidentielle, qui reste, comme je le disais, l'élection principale en France, peut faire ce saut du premier tour et qui sait ce qui se passe au second.
Alors, c'est effectivement une possibilité qui n'est pas à écarter, mais on a vu aux européennes que nous avions la poursuite de cette recomposition politique avec deux forces dominantes, alors qui sont certes pas triomphantes, mais dominantes, La République En Marche et le Rassemblement National, qui conservent leur capital électoral des européennes, de la présidentielle, à quelques points près. Et ce qu'il faut quand même constater, c'est quand même un schéma inverse à celui que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il y avait deux forces à la présidentielle, les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et les Républicains de François Fillon, qui émargeaient chacun à 20% des voix et qui tombent respectivement à 6 et 8. Donc le processus de fragmentation se poursuit. On entend tout à l'heure Mme Genevard qui explique que c'est dangereux pour la démocratie que nous soyons dans une alternative entre le parti présidentiel, qui, encore une fois, rassemblerait, pour faire vite, le cercle de la raison, les classes moyennes, les gens qui habitent dans les grandes métropoles, qui s'en sortent dans la mondialisation, et de l'autre côté, un rassemblement national qui ferait des scores très importants dans la France qui souffre et dans les milieux populaires. Et qu'on dise, il n'y aura pas d'alternative. Mais, encore une fois, il faut prendre la mesure de l'émergence de cette force centrale qui... occupe aujourd'hui un espace qui mange à la fois sur la vieille gauche socialiste et aussi sur l'espace des Républicains. Un quart de l'électorat qui avait voté François Fillon à la présidentielle, et on rappelle que François Fillon ne fait que 20% des voix, Nicolas Sarkozy faisait 27% en 2012. Donc on est déjà sur le noyau dur de la droite, hein, qui vote pour François Fillon. 20%, on peut dire que c'est la droite fidèle. Eh bien, un quart de ses électeurs ont rallié la République En Marche aux européennes.
Oui, la liste de François-Xavier Bellamy fait exactement le même nombre de voix que ce qu'avait rassemblé François Fillon au premier tour de la primaire des Républicains. Il y a un certain nombre d'années qu'on voit que la droite est réduite à l'os, Jérôme Fourquet. Mais alors, vous qui êtes, je le disais, le directeur du département Opinion et Stratégie d'Entreprise de l'IFOP, et donc qui a analysé l'opinion publique. Aujourd'hui, on est dans un contexte politique et social qui ne concerne pas que les partis, qui est aussi celui de la crise qu'on a traversée avec les Gilets jaunes, qui donc une crise de défiance vis-à-vis du politique, la difficulté, comme vous le dites aussi dans votre livre, à rassembler ces différentes archipels qui se sont constitués en France, avec une matrice selon vous qui est la question religieuse notamment, mais qui pas seulement, et qui est la question sociale, la question de l'emploi, la question géographique qui est très très forte, qui apparaît très fortement. Est-ce que cette décision, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, de repartir des valeurs pour la droite, quand la gauche, vous l'avez dit, par elle des idées, hein, elle est réunie à la Charité-sur-Loire, en tout cas une partie de la gauche est réunie à la Charité-sur-Loire à l'initiative de Christian Paul pour parler des idées, trouver des idées, donc la droite cherche des valeurs, la gauche des idées. Est-ce que c'est de nature à répondre à cette demande manifestée par les Français, et même est-ce qu'on peut mesurer cette demande?
Alors, je pense que Annie Genevard a raison. Vu l'état et la situation que connaît la droite aujourd'hui, il faut repartir de la base. Il faut tout reconstruire, hein, puisque on n'est pas là dans un choc de défaite électorale comme on en a connu dans l'ancien monde, c'est-à-dire quand le balancier gauche-droite successivement envoyait dans le décor soit le Parti Socialiste, soit l'UMP et les Républicains en disant « bon voilà, il faut changer notre mode de fonctionnement interne, changer notre leader et puis ripolliner notre programme ». Là, c'est beaucoup plus profond. C'est une question existentielle qui est en train de se jouer pour la droite. La droite, c'est une agrégation de sensibilités différentes, mais depuis une trentaine d'années au moins, la question économique et sociale était quand même centrale dans son ADN et dans ce qu'elle proposait, ce qu'elle mettait en avant aux Français. À partir du moment où une offre politique différente incarnée par Emmanuel Macron reprend toute une partie de ce corpus économique et social, on voit bien que la droite est en péril qui est tout à fait mortel.
Oui, on le voit sur la question d'ADP, on le voit sur la question de la signature du traité transatlantique, du CETA avec
voilà,
le Canada.
Donc, il y a différentes options pour la droite, soit s'afficher comme étant le vrai courant libéral français et faire, si vous me permettez la formule, un procès en réformisme Canada Dry vis-à-vis d'Emmanuel Macron.
Ce qu'a fait récemment Christophe Devaux, qui est un historien de la droite, dans une tribune du Figaro.
Voilà, on peut dire, voilà, ils en parlent beaucoup, mais la réforme, le compte n'y est pas, le déficit public, etc. C'est quand même très difficile à tenir dans la France post-Gilets jaunes. Hein, rappeler le programme de François Fillon en disant il faut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, après la crise des Gilets jaunes, c'est difficile à tenir. Et on rappellera que François Fillon, dans les sondages d'intention de vote pour la présidentielle, commence à baisser avant les affaires. Il commence à baisser au moment où, Madame Genevard le rappelait, l'offensive de la gauche se déploie sur l'aspect libéral de son programme, lièvre, si vous me permettez, qui avait été levé par Alain Juppé pendant la primaire, hein, avec la fameuse polémique sur le gros rhume ou le petit rhume qui serait plus ou moins déremboursé par la sécurité sociale. Là, à partir de ce moment, il y a toute une partie de la classe moyenne et de la France du travail qui abandonne la droite. Au moment de la présidentielle, François Fillon, qui fait 20% des voix, fait simplement 10% dans les classes moyennes et dans l'électorat employé-ouvrier. Donc, c'est-à-dire que la droite est vraiment rayée de la carte dans la France du travail. Donc, soit il y a ce positionnement très libéral en disant Emmanuel Macron, le compte n'y est pas, il faut aller encore plus loin, mais ça ne correspond pas à la culture profonde du pays, et vous êtes dans une niche, soit on a deux autres options. Une autre option plus classique pour la droite, c'est de dire, et c'est ce qu'avait privilégié Laurent Wauquiez, qui avait une certaine cohérence intellectuelle et idéologique, en disant, à partir du moment où nous ne pouvons plus nous distinguer sur les questions économiques et sociales, il faut mettre en avant la question des valeurs. D'où le choix de François-Xavier Bellamy pour les européennes. Mais là aussi, ça a le mérite de la clarté et de la cohérence, mais ça vous expose, comme l'option très libérale, à ne parler qu'un segment très étroit de la population française. La France, aujourd'hui très conservatrice, elle existe, elle n'a pas disparu, mais elle ne vous permet pas de dépasser et d'atteindre un score à deux chiffres. Et puis, la troisième option, qui consisterait à renouer avec un certain gaullisme social, matinée de dimension territoriale. C'est un peu, si vous voulez, le chemin qu'a voulu prendre Xavier Bertrand, c'est de dire, nous, aujourd'hui, face au libéralisme macronien, nous allons incarner un souverainisme à la fois en matière économique, donc positionnement sur les privatisations, les nationalisations, une certaine dose de protectionnisme, et donc là, c'est la critique sur le Mercosur, rallier la question du salaire, et renouer avec la thématique sarkozyste du travailler plus pour gagner plus, de la méritocratie. Donc ça, peut-être que ça peut avoir une cohérence un peu plus importante, mais si l'on revient à 2007, quand Nicolas Sarkozy gagne, la martingale gagnante, c'est qu'il a su...
C'est la fameuse triangulation, mais aujourd'hui, on ne peut plus trianguler, Jérôme Fourquet, parce que tout est éclaté.
Alors, on peut trianguler.
Faut quadranguler,
il faut aller dans les angles, mais la triangulation, elle est pratiquée à très grande échelle par Emmanuel Macron. Et c'est la droite qui en est aujourd'hui la principale victime.
Une dernière question, Jérôme Fourquet, puisque vous l'avez dit, il est important de repartir des territoires pour la droite aujourd'hui. La prochaine grande échéance électorale, ce sont évidemment les municipales. On a vu l'offensive de LREM, selon le fameux principe que vous venez d'énoncer il y a quelques instants, c'est-à-dire à partir du moment où les Républicains ne permettent plus de gagner, on va aller chercher des maires sortants de droite en leur disant « venez chez nous, nous notre étiquette va vous faire gagner ». On a vu que le Rassemblement National avait sensiblement le même discours et en tout cas la même démarche. Donc, partir des territoires, c'est aussi un danger pour la droite aujourd'hui.
Alors, oui et non.
Même si elle est droite dans ses valeurs.
Alors, oui et non. C'est aussi une vieille histoire à droite. C'est de dire, nous sommes pas des gens, des théoriciens, nous ne sommes pas des idéologues, nous sommes des gens pragmatiques, des gens du bon sens. Et le bon sens, c'est sur le territoire, sur le terrain qu'on le voit. Il n'y a pas les solutions de droite et de gauche, il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, c'est souvent un peu une figure obligée à droite aussi de dire « on va repartir du terrain ». C'est là où se trouve le réservoir d'idées.
L'influence aussi de Gérard Larcher, qui est donc le président du
Tout
Sénat.
Tout à fait.
Donc
il y a intérêt. Et c'est aussi, élément plus nouveau, une façon en creux de rejouer l'opposition entre la France des territoires et la France des métropoles et essayer de corneriser ou coincer ou Emmanuel Macron dans le rôle d'un président qui parlerait d'abord et avant tout à cette France des grandes métropoles des territoires qui vont bien, alors que la droite, si elle faisait cela, disant ben voilà, nous on a vocation à parler.
C'est le discours de Marine Le Pen, ça.
C'est
le président de la globalisation contre les nationaux.
Et bien, c'est là, et donc il y a un chemin de crête qui est très étroit, et donc c'est celui-là que la droite va essayer de tenir, mais on voit effectivement que la tâche est très ardue, avec, si on parle des territoires, un dernier actif vraiment important que Gérard Larcher essaye de conserver pour la droite, c'est son maillage d'élus locaux, mais ce maillage d'élus locaux, il va être soumis à une extraordinaire pression au moment des municipales, beaucoup refuseront de porter l'étiquette LR, et beaucoup, sans doute, ne seront pas insensibles aux sirènes qui viennent soit d'En Marche, soit du RN.
Et on vous invitera à ce moment-là, Jérôme Fourquet,
merci
pour en parler. Évidemment, je rappelle le titre de votre livre, prix du livre politique 2019, tout de même, L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, c'est aux éditions du Seuil. Je remercie également Annie Genevard, députée Les Républicains du Doubs, qui était avec nous par téléphone. Your hands on me, I want you to Close to You, c'est le dernier single du producteur et arrangeur lillois Antoine Pell qui ouvre parfaitement, je trouve, notre bande-son de l'été en attendant un premier album. On peut l'entendre ce week-end, Les Pieds dans l'eau, à Étretat, dans le cadre de l'excellent festival Hello Birds.
Le magazine du week-end, Raphaël Bourgois.
Gesetz, den Fall, es findet auch die Zustimmung im Parlament, könnte eine deutsche.
C'est la première femme à la tête de la Commission. Et c'est la première fois depuis 52 ans que l'Allemagne occupe la présidence de la Commission.
Je me félicite ainsi de la constitution d'une équipe nouvelle, intégralement francophone. Pour la première fois, en effet, la Commission européenne et la Banque centrale européenne sont dirigées également par des femmes. Ce profond renouvellement reflète les nouveaux équilibres politiques qui ont émergé suite aux élections européennes.
Où sont les Verts à l'heure actuelle, que ce soit au niveau du Conseil, que ce soit au niveau de la Commission, au niveau du Parlement, pareil. Pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Parce que c'est des vieilles institutions, parce que ce sont des partis politiques qui se distribuent les postes. Donc moi, je suis un peu abasourdi de l'autisme, si vous voulez, de ces dirigeants. Ils sont à côté de la plaque.
On parle d'Europe, l'Europe qui sort d'une semaine cruciale, la nomination dans la douleur de l'Allemande Ursula von der Leyen à la tête de la Commission, saluée, on l'a entendu, par Angela Merkel et par Emmanuel Macron, un peu moins par l'écologiste Michel Rivasi, on en parlera. Donc cette nomination également de la Française, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, du Belge Charles Michel, président du Conseil Européen, de l'Espagnol Josep Borrell, haut représentant pour les affaires étrangères, et enfin de l'Italien David Sassoli, président du Parlement Européen. Parlement qui faisait sa rentrée cette semaine et qui n'a que peu goûté les tractations et marchandages qui ont abouti notamment à s'asseoir sur le système de Spitzenkandidat qui lie la nomination du président de la Commission au résultat des élections européennes. Autre mécontent, les Verts qui malgré leur percée ne voient aucun des leurs choisi pour l'un de ces top jobs. D'où cette question, le vote des électeurs aux dernières élections a-t-il été respecté? Europe, des nominations très politiques, c'est notre deuxième sujet du jour et pour en parler ici en studio à Paris. Pascal Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député européen écologiste, mais élu sur la liste Renaissance, conduite par Nathalie Loiseau. Vous êtes membre du groupe Renew Europe, mais vous n'êtes pas membre de La République En Marche. C'est bon à préciser. Et en duplex, depuis nos studios de Radio France à Bruxelles, Anne Rovan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante Europe du Figaro et merci à Lakshmi Lotha qui vous accueille chez elle ou en tout cas dans les studios plutôt de Radio France à Bruxelles. Alors, j'ai commencé avec vous, Anne Rovan, si vous le voulez bien, puisque vous avez assisté, vous avez suivi ces fameuses tractations, on en a pas mal parlé cette semaine, nomination dans la douleur, vous avez même employé le terme, je crois, dans votre article du Figaro de forceps, c'est l'expression que vous avez employé. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé, comment Ursula von der Leyen est sortie du chapeau d'Emmanuel Macron, si j'ai bien compris, bien qu'on aurait pu croire qu'elle était plutôt la candidate d'Angela Merkel. Bref, ça a été plein de surprises et de rebondissements, j'ai l'impression.
Alors, ça a été plein de surprises et de rebondissements, effectivement, puisque lorsque Emmanuel Macron arrive au Conseil européen dimanche en début d'après-midi vers 15h, il explique, très sûr de lui, que ce soir, trois nominations seront effectuées. Et évidemment, enfin évidemment, maintenant on le sait, rien ne va se passer comme prévu, puisque la soirée se passe, elle se passe mal, la nuit se passe, elle se passe mal, et que le lendemain, en fin de matinée, donc lundi, les 28 nous expliquent qu'ils suspendent ce Conseil européen pour se retrouver à Bruxelles, à nouveau, le mardi, en fin de matinée. Voilà. Donc, et le dimanche, en réalité, la candidature qui devait être testée était celle de Frans Timmermans, hein, le socialiste, le chef de file des socialistes européens. Mais ce soir-là, enfin cet après-midi-là et ce soir-là, il y a un tir croisé des PPE, qui ne veulent pas en entendre
parler. Le Parti populaire européen, qui est le parti de droite.
Parti populaire européen, absolument. Ils ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils considèrent qu'ils ont gagné les élections. Et de fait, même s'ils sont en baisse, ils sont arrivés en tête. Voilà, donc il y a d'un côté les PPE et de l'autre, il y a les pays de Visegrad, pour lesquels il est... Enfin, Frans Timmermans, c'est absolument inenvisageable, puisque Frans Timmermans, qui est l'actuel premier vice-président de la Commission européenne, a mené beaucoup de batailles pour la défense de l'état de droit dans ces pays, notamment la Hongrie et la Pologne.
Oui, qu'il a lancé des procédures, évidemment, qui peuvent aboutir à des sanctions de la Pologne, de la Hongrie. Pascal Durand, je le rappelle, vous êtes eurodéputé. Comment est-ce que vous avez regardé, de votre siège d'eurodéputé, j'ai envie de dire, ces tractations de couloir qui ne donnent pas la meilleure image politique de l'Europe?
Non, elles sont malheureusement habituelles. Hein. Je veux dire, on s'y attendait et ça fait déjà des mois qu'on savait que Weber, qui avait la volonté, Manfred Weber, pardon, qui est le président du groupe du PPE, qui avait la volonté d'être le prochain président de la Commission, n'aurait pas de majorité au Parlement. Tout le monde le savait. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un secret de polichinelle. Après, il fallait que le PPE, qui est arrivé en tête. Et donc ça, c'est assez, assez logique. C'est la démarche qu'on a en Allemagne ou en Grande-Bretagne quand un parti arrive en tête. C'est son leader, entre guillemets, qui prend la tête de l'exécutif. Sauf que on a un problème. C'est que le dit PPE et M. Weber en tête ont bloqué les listes transnationales. C'est-à-dire qu'ils nous ont empêchés de faire en sorte que l'Europe désigne effectivement un mouvement majoritaire avec un leader qui serait un leader européen. Là, en l'occurrence, M. Weber, il est un peu connu, je dis bien un peu, en Allemagne. Il représente la partie la plus dure, hein, c'est la droite, c'est la CSU, donc c'est la partie la plus dure du PPE, et cette partie dure, là, entre guillemets, ne pouvait pas avoir une majorité, parce que la majorité au Parlement européen, c'est à minima la droite, j'allais dire traditionnelle, parce qu'après il y a la droite dure, hein, avec le CR et évidemment l'extrême droite, et puis il faut les socialistes, et il faut les libéraux, les démocrates et souvent même les verts. Voilà. Donc
Ursula von der Leyen, elle est connue, mais pas que en bien en Allemagne, puisque Angela Merkel a dû même s'abstenir lors de la nomination pour pas froisser son parti de la CDU, pour le SPD qui est dans la coalition nationale avec la CDU-CSU en Allemagne. Et elle est parfaitement inconnue au niveau européen, même si elle est francophone, qu'elle est née à Bruxelles. Enfin voilà, c'est un profil qui pour le job justement convient plutôt parce que. Mais est-ce que justement ce non-respect de ce qu'on appelle le Spitzenkandidat, c'est-à-dire un candidat prédésigné qui est le président du parti majoritaire, voilà, en fait ce que vous nous expliquez c'est qu'il est impossible à maintenir tant qu'il n'y a pas de liste transnationale, c'est le discours d'Emmanuel Macron d'ailleurs.
Mais et c'était le discours qu'avaient tenu les Verts, je veux dire là on a eu une discussion, mais c'était je représentais le groupe des Verts dans la commission des affaires constitutionnelles, et on avait fait mettre un addendum au principe du Spitzenkandidat en disant le Spitzenkandidat c'est ok, le parti qui arrive en tête, et ça c'est cohérent que ça soit celui qui parle en premier. Mais il pourrait imaginer que demain l'extrême droite arrive en tête avec, je dis n'importe quoi, 30%. C'est pas pour ça qu'elle va avoir la possibilité d'aller chercher les 20% qui lui manquent pour faire une majorité. Donc il y a un moment où il faut être quand même réaliste. Le parlementarisme, c'est d'abord et avant tout la capacité de faire une majorité. Donc on avait dit oui pour le principe du parti arrivé en tête qui a la capacité de prendre la commission, mais à condition qu'il arrive à faire une majorité. Et il n'y arrivait pas, en tout cas, Manfred Weber n'y arrivait pas. Bon, là, on a une candidate qui semble-t-il, je dis bien semble-t-il, parce que le Parlement ne s'est pas encore prononcé.
Il doit le faire mi-juillet,
non ? Exactement, à notre deuxième session plénière, donc on verra bien comment ça se passe.
Vous avez bon espoir quand même ?
J'en sais rien parce qu'elle a pas commencé ses auditions, donc on va regarder. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, et là, on sort de la cuisine et on rentre dans la réalité. Le Conseil européen, donc ce qui représente les États, ont fait en gros leur feuille de route. Ils nous ont dit voilà ce qu'on veut pour les 5 ans qui viennent. Nous, on essaye de négocier au Parlement européen à 4 groupes, mais là, il y a une difficulté avec les Verts en ce moment, et je le regrette évidemment très 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 fortement. On essaye de faire la feuille de route qui sera celle du Parlement européen, et c'est cette feuille de route qu'on va présenter à la Commission pour savoir s'ils sont d'accord et ce qu'ils en prennent.
Anne Revant, la question de ce Spitzenkandidat, elle n'est pas que une question de nomination, qu'une question institutionnelle, c'est aussi la capacité de l'Europe à se transformer, à devenir, à se politiser, pour employer cette expression, c'est-à-dire à devenir véritablement un espace politique et pas juste un espace technocratique comme ça lui est souvent reproché. De votre poste d'observatrice à Bruxelles, comment est-ce que vous voyez justement ces nominations à la lumière de cet enjeu de la politisation de l'Europe?
Alors, je crois d'abord que la procédure, enfin le système de Spitzenkandidat appliqué à l'Europe, est quelque chose de très récent, vraiment très récent. Donc, qu'il y ait des imperfections dans le système, que ce soit un système qu'il faille améliorer, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais en réalité, c'est un système qui a été appliqué pour la première fois en Europe au moment de la désignation de Jean-Claude Juncker. Donc, c'était il y a 5 ans. Voilà. 5 ans, c'est extrêmement récent en réalité. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, il faut peut-être politiser cette union, en tout cas permettre aux électeurs qui ont d'ailleurs beaucoup plus voté cette fois-ci, ce qui est quand même aussi assez important, permettre aux électeurs d'avoir le sentiment que dans le fond ils ont prise sur les choses. On peut pas à la fois regretter que les électeurs ne se mobilisent pas, et bon, même s'ils se sont plus mobilisés, on est quand même à peu près 50% d'abstention, hein, ce qui est pas non plus extraordinaire, voilà. Et d'un autre côté, mettre de côté tout ce qui pourrait permettre à moyen terme d'améliorer les choses.
Oui, Emmanuel Macron, un brin énervé lors du deuxième report, hein, avant justement le fameux mardi où a été trouvé cet accord autour des différentes nominations, le disait, nous donnons une image de l'Europe qui n'est pas sérieuse, et il enchaînait Pascal Durand en disant il n'y aura pas d'élargissement sans une refonte en profondeur du fonctionnement de l'Union européenne. Selon vous, quelles sont les priorités de cette refonte?
On vient d'en donner une. C'est le fait que les citoyens se sentent représentés en Europe. Et donc, que l'on arrive dans
une fameuse politisation.
Mais oui, j'allais dire démocratisation, tout simplement. Enfin, il y a un mot beaucoup plus simple, direct, c'est la démocratisation de l'Union européenne.
Mais c'est un espace démocratique aujourd'hui ou pas?
Oui, alors, c'est un espace démocratique en construction. C'est-à-dire qu'il faut aussi être, un peu tolérant avec le système qui se met en place. C'est compliqué. On a eu, dans un premier temps, à faire face, évidemment, à la reconstruction après la guerre, les millions de morts, etc. Donc, on était dans un environnement qui était un environnement de crise. On construit quelque chose, on le construit sur une idée, et l'idée, j'allais dire commune, à ce moment-là, ça a été d'abord le commerce et les échanges commerciaux. Alors après, on s'est aperçu qu'il manquait effectivement de social, de politique et d'une volonté de construire une Europe un peu plus fédérale, c'est-à-dire un peu plus intégrée. La difficulté que nous avons, c'est que nous sommes le seul espace démocratique au monde où on confond le législatif et l'exécutif. C'est-à-dire qu'on a tous appris Montesquieu, la séparation des pouvoirs, le judiciaire, etc. Et là, on arrive à quelque chose d'assez exceptionnel. On a une commission qui est censée être l'exécutif européen, mais qui en réalité est désignée par les États, puisque j'ai un commissaire par État.
C'est-à-dire que la commission, par exemple, maîtrise l'agenda.
Exactement. Et elle a l'initiative totale des lois. C'est-à-dire qu'en gros, les directives et les règlements que nous adoptons, ça passe d'abord et avant tout par la volonté de la Commission. Nous, on peut l'interpréter.
Sous le regard du Conseil, c'est-à-dire des chefs
d'État.
Sous la tutelle
du Conseil. Et le Parlement européen, et là je parle sous le contrôle de Anne Revan, mais qui le sait, prend de plus en plus de pouvoirs. C'est-à-dire que le traité de Lisbonne a donné de nouveaux pouvoirs au Parlement, et le Parlement essaye d'imposer un peu sa patte sur les textes européens. On prend des rapports d'initiative pour dire, écoutez, bougez-vous, on attend quelque chose. On l'a fait sur la fiscalité. On l'a fait. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels le Parlement demande qu'on agisse. Et donc notre problème, et c'est là-dessus, je ne veux pas être trop long, parce qu'après mais simplement le problème qu'on a, c'est que nous sommes, nous, Parlement, co-législateurs, avec les exécutifs, avec le Conseil européen. En gros, et pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si le Parlement français votait la loi, et une fois que la loi est votée, elle retourne devant le gouvernement, et le gouvernement dit, ça je prends pas, ça on verra dans 3 ans, ça on va faire une étude d'impact. Et vous êtes là, vous dites, mais attendez, la volonté, en gros, populaire, les élus, ce sont nous. Donc voilà. Donc
c'est là, vrai que ce serait embarrassant qu'en France, l'Assemblée nationale ne soit qu'une chambre d'enregistrement des décisions gouvernementales.
Avec un peu ce problème du fait majoritaire en France, que nous n'avons pas au Parlement. Au Parlement européen, on a une chance exceptionnelle. Il n'y a pas de majorité politique. Donc on est obligé de construire ces majorités. C'est la vraie démocratie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne relève pas assez en France.
Anne Revan, justement, sur cette prise de, en tout cas, de pouvoir, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, cette montée en puissance du Parlement européen, telle que l'a décrit Pascal Durand, vous êtes d'accord?
Oui, il y a une montée en puissance, en tout cas, il y a une pression forte. Oui, absolument.
Et qui se manifeste comment? Oui, allez-y, je vous en prie.
Est-ce que je peux revenir deux fois sur le Spitzenkandidat? Juste une minute pour préciser quelque chose. Je pense que le système n'est pas mort, liste transnationale ou non d'ailleurs, parce qu'en réalité, les choses se seraient certainement passées différemment si Manfred Weber n'avait pas été jugé, comment vous dire,
ectoplasmique, comme juste, pour reprendre les paroles de Nathalie Loiseau,
que je ne reprendrai pas, hein, mais un peu juste pour le poste, voilà. Si on avait eu en face de nous, en tout cas si les 28 avaient eu en face d'eux un candidat plus charpenté entre guillemets et capable de faire de construire en fait sa majorité, la procédure du Spitzenkandidat, elle serait toujours là. Donc il y a une ambiguïté, il y a deux choses qui sont rencontrées, il y a une ambiguïté sur les choses. Je pense que liste transnationale ou pas, ce système n'est pas mort. Voilà, vraiment j'en suis absolument convaincue. Je peux me tromper, hein, mais j'en suis convaincu.
Non, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est encore une fois, tout dépend ce que l'on veut mettre là derrière le mot Spitzenkandidat. Mais si on considère que c'est la personnalité du parti arrivé en tête aux élections en Europe qui doit arriver à former cette majorité, moi je partage absolument. Et de toute façon, c'est une logique démocratique. Donc le processus n'est pas mort, simplement il faut l'améliorer. Et puis la question qui a à se poser, c'est comment on arrive à donner une légitimité, parce que la question démocratique, c'est aussi la question de la légitimité. Quand quelqu'un dirige, il doit être reconnu, sinon ça a été le problème de Juncker pendant des années, qui finalement n'est pas apparu comme vraiment légitime en tant que dirigeant. Donc moi je suis d'accord, hein, pour qu'on garde ce schéma-là, mais qu'on l'améliore. Et puis les listes transnationales permettraient de faire une vraie campagne européenne avec un vrai programme européen partagé. Et donc là on pourrait voir l'émanation d'un leader ou d'une leader européenne qui serait un peu le représentant de cette idée dans les 28 pays ou les 27 si le Royaume-Uni venait à nous quitter.
Pascal Durand, on a beaucoup salué l'équilibre de ce casting européen, de ce Team Europe, comme dirait Emmanuel Macron. Toutefois, pas de vert dans le casting. C'est une déception pour vous. On parlait par exemple beaucoup de l'Allemande Ska Keller à la tête du Parlement européen.
Moi, je ne pensais pas qu'elle arriverait à la tête du Parlement européen directement, tout simplement parce que les socialistes, qui sont quand même le deuxième parti et qui sont très importants, doivent avoir une responsabilité. Et c'est cohérent qu'ils aient la présidence du Parlement européen s'ils n'ont pas eu la présidence de la Commission. Donc, moi, je ne m'attendais pas à ce que Ska Keller soit directement présidente du Parlement. En revanche, j'aurais aimé, et je ne désespère pas, puisqu'au bout de 2 ans et demi, les postes changent au sein de l'Union européenne, enfin du Parlement, dans la partie démocratique du Parlement, on tourne au bout de 2 ans et demi. Moi, j'espère que Ska Keller, effectivement, arrivera à avoir une majorité et deviendra présidente du Parlement. Maintenant, je voudrais répondre juste en un mot à Michel Rivasi tout à l'heure.
Qui a fait une intervention qui
est assez vraie. Mais simplement, il faut qu'elle se pose la question de savoir pourquoi ce qu'elle dit est vrai. C'est-à-dire qu'elle dit on n'est pas ni à la Commission ni au Conseil. Ben oui, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'État ni d'exécutif dirigé par des Verts. Le jour où les Grünen, comme cela, est pas impossible, et même, on va même dire, si je suis comme Danny Cohn-Bendit, probable, le jour où les Grünen prendront...
Donc les Verts allemands.
La chancellerie, absolument, prendront la chancellerie en Allemagne, alors ils arriveront au Conseil, de fait, et ils arriveront à la Commission. Et là, nous verrons, effectivement, des Verts qui auront des responsabilités au Conseil ou à la Commission. Donc, là, le seul endroit où les Verts peuvent exister, pour le moment, c'est au Parlement européen, et j'espère qu'ils auront des responsabilités dans les années qui viennent.
Anne Revant, comme toute, évidemment, nomination, il y a des déçus, des grands perdants. Qui sont, selon vous, en tout cas, qu'est-ce qui se dit à Bruxelles, des grands perdants de ces nominations, de ces tractations telles qu'elles se sont déroulées cette semaine?
Alors, les grands perdants, bon, c'est bien évidemment Manfred Weber, voilà, qui s'est accroché, hein, quand même. Ça, je crois qu'on peut pas lui retirer ça. Voilà. Donc,
on parlait beaucoup de Michel Barnier aussi.
Alors, j'allais y venir. Un grand perdant, un autre grand perdant, c'est Michel Barnier, hein, le Français Michel Barnier, négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, qui n'a jamais été vraiment soutenu par Emmanuel Macron.
Malgré les déclarations.
Malgré les déclarations, vous savez, quand on soutient quelqu'un, on donne son nom et on ne donne que son nom. Voilà. On le noie pas, si j'ose dire, voilà, avec d'autres noms. Or, en réalité, Emmanuel Macron, quand il parlait des personnes qu'il soutiendrait, hein, voilà, il y en avait trois. Il y avait Frans Timmermans, il y avait la libérale danoise commissaire à la concurrence Margrethe Vestager, et il y avait Michel Barnier. C'est un soutien, comment on pourrait dire,
à 33%.
Oui, assez modéré, je dirais.
Vous n'êtes pas d'accord, Pascal Durand?
Non, c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que on nous a reproché, le nous étant la France, hein, on nous a reproché d'avoir fait une arrivée un peu arrogante dans le cadre de cette reconstitution de la nouvelle Commission et du Conseil. Et Michel Barnier est membre du PPE, donc un mouvement qui n'est pas un mouvement allié à Emmanuel Macron, puisqu'Emmanuel Macron est dans la famille libérale-démocrate de Madame Vestager, et est plus proche finalement des sociaux-démocrates. On l'a vu avec les Espagnols et au niveau européen, hein, s'entend, il est beaucoup plus proche des Espagnols et des Portugais, donc des sociaux-démocrates, que de la droite traditionnelle. Et c'était peut-être aussi desservir Michel Barnier que d'arriver avec l'étiquette franco-française en disant bah finalement les Français ils vont faire du franchouillard et ils vont se défendre, même s'ils sont pas dans la même famille politique, ils vont se défendre parce qu'ils sont Français. Donc c'est vrai que le soutien a pas été très fort, mais je ne suis pas persuadé que ça ne soit pas pour ne pas nuire à Michel Barnier. Je pense que in fine le président Macron aurait été très satisfait que Michel Barnier soit président de la Commission. Je crois que c'est la CDU qui a fait un tir de barrage très très clair pour que Michel Barnier ne prenne pas la Commission, comme la dernière fois d'ailleurs, hein, Juncker avait déjà pris la place de Michel Barnier.
Qui est donc l'éternel perdant des nominations
on a peu l'occasion de le dire, mais moi je lui rends hommage sur le travail qu'il a fait dans le cadre du Brexit pour deux raisons. D'abord, il a fait un boulot, il a réussi à garder l'unité des 27, et ça c'est très 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 important, et il a fait ce que ne fait jamais la Commission, de la transparence permanente sur l'état des négociations. Il venait au Parlement, il nous expliquait où on en était, donc moi je veux vraiment publiquement rendre hommage au travail de Michel Barnier.
Anne Revant, on parlait d'équilibre dans les nominations, donc deux hommes, deux femmes. On parle d'équilibre aussi entre les différents partis politiques, entre les différents pays. Il y a toutefois un certain déséquilibre géographique qui a été pointé du doigt. C'est celui qui se manifeste de plus en plus dans l'Union européenne, entre l'Est et l'Ouest. Aucun pays dit du groupe de Visegrad, ou même de toute façon des pays de l'Est, des pays nouvellement entrés dans l'Union européenne suite à la chute du mur de Berlin, ne sont représentés, et ça coince un peu.
Alors, en réalité, il y a deux déséquilibres. Enfin, il y a plusieurs déséquilibres. Il y en a un qui est, à mon avis, à mon sens, hein, un déséquilibre politique, puisque j'ai tendance à penser que les socialistes ont été plutôt mal servis, puisqu'ils se retrouvent avec la fonction de haut représentant. Alors, les gens qui nous écoutent se disent « Oh là là, haut représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne, c'est un poste formidable. » En réalité, c'est un poste très ingrat.
Il n'y a pas de diplomatie européenne, véritablement.
Il n'y a pas vraiment de diplomatie européenne. Enfin, c'est épuisant en plus, parce que ce sont des gens qui voyagent, bon, évidemment, énormément. Mais c'est un poste très ingrat, hein, donc faut pas se raconter d'histoire par rapport à ça. Et puis, cette présidence du Parlement européen, deux ans et demi, voilà. Bon, donc, franchement, ils n'ont pas été formidablement bien servis. Le PPE s'en sort plutôt pas mal, mais en réalité, le grand gagnant, sont les libéraux, c'est Emmanuel Macron, qui réussit quand même à placer Charles Michel, qui est un proche, hein, qui est un soutien donc à la présidence.
C'est un premier ministre belge, donc.
Premier ministre belge. Sur le départ, hein, si vous permettez que j'ajoute ça, et puis Christine Lagarde, qui n'a jamais été encartée UMP quand elle était ministre sous Nicolas Sarkozy, voilà. Donc bon, le grand gagnant, c'est ça. Alors, en termes d'équilibre géographique, c'est en fait la team Europe, comme l'appelle Emmanuel Macron, c'est la team des pays fondateurs. Voilà, de l'Union européenne, hein, puisqu'on retrouve la France, on retrouve l'Allemagne, on retrouve l'Italie, on retrouve la Belgique. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, les élargissements, il y a l'Espagne aussi, mais qui faisait pas partie des pays fondateurs. Donc ça veut dire qu'en termes, vous voyez, en termes d'équilibre par rapport à ce qu'était ensuite l'élargissement de l'Union européenne, bon, c'est un peu une histoire qui est passée sous silence. Et puis effectivement, les grands absents sont les pays d'Europe centrale et orientale qui sont totalement absents. Alors, je pense que si les Visegrad, les pays de Visegrad, donc qui sont ces trois pays que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, n'ont pas eu
de poste,
c'est parce qu'ils avaient tellement peur d'avoir Timmermans qu'ils étaient prêts à signer derrière pour je vais pas dire pour n'importe quoi, ça ce serait vraiment pas correct. Bon, enfin, voilà. En tout cas, ils étaient prêts à ne pas avoir. Leur souci, c'était surtout de ne pas avoir Timmermans. Voilà.
Pascal Durand, cette fracture géographique, on la voit s'aggraver depuis un certain nombre d'années au sein de l'Union européenne. Est-ce que, selon vous, une Europe à plusieurs vitesses, qui se dessine de plus en plus, est inévitable, avec donc ce noyau dur des pays fondateurs, plus peut-être l'Espagne, autour de la zone euro? Est-ce que c'est inévitable?
Là, on rentre, j'allais dire, dans le vrai sujet. Parce que bon, depuis tout à l'heure, on est
à 13h42.
Comment on s'organise, etc. Sont évidemment des questions importantes, mais l'Europe, c'est d'abord et avant tout la gestion de 500 millions d'êtres humains, c'est effectivement comment on arrive à faire en sorte que tout le monde soit dans le même bateau, qu'on laisse personne au bord de la route et qu'on construise ensemble. C'est un vrai gros sujet. Nous, on a essayé à notre niveau en élevant à la présidence du groupe Renew, qui est le troisième groupe au Parlement européen, on a fait en sorte que ce soit un Roumain qui soit président de groupe. C'est la première fois qu'un Roumain ou quelqu'un des pays de l'Est est président d'un groupe important au Parlement européen. Donc ça, c'est un signal qu'on a envoyé et c'est un signal important. Après, la question de l'Europe à plusieurs vitesses est une question considérable. Elle est considérable parce que on sait très bien que tout le monde n'arrive pas et n'est pas au même niveau, ni au même développement économique. Ça, on le sait, c'est une évidence. Ceux qui sortent des pays de l'Est en 89, etc., sont dans des conditions économiques qui ne sont pas les conditions occidentales. Ça, c'est une chose. Et elle est réelle. Mais ça, on peut peut-être la compenser avec de l'argent. Et c'est ce qu'on fait. Et il y a les fonds européens, etc. Ça, j'allais dire que c'est une évolution, finalement, assez facile à gérer, y compris dans une logique qui peut être libérale sur un plan économique. Là où, en revanche, on a une vraie difficulté, c'est la question de la démocratie. Ce sont des pays qui sortent d'années, de décennies de totalitarisme. Ce sont des pays qui, parfois, n'ont jamais connu la démocratie. Pas comme des pays comme l'Espagne ou la Grèce qui sont passés de la démocratie à la dictature. Puis bon. Et donc, on a une difficulté. Leur difficulté, c'est qu'ils se sentent mal aimés, ils se sentent un peu rejetés par l'arrogance des vieilles démocraties, y compris la démocratie britannique. Donc, il faut pourtant qu'on puisse avancer. Il y a des règles d'unanimité parfois qui bloquent, et donc il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre. Et le bon équilibre, c'est par exemple la coopération renforcée, qui permet à des pays qui veulent avancer sur un sujet de le faire ensemble, et ensuite d'accrocher les wagons avec d'autres pays. Mais voilà, il faut qu'on laisse personne au bord de la route. Après, il faut pas non plus qu'on tolère que les Polonais, que les Hongrois, que les Roumains. On a encore vu là les droits des LGBT en Pologne qui sont bafoués avec la possibilité de ne pas les servir dans des magasins au motif que la clause de conscience leur serait applicable. Enfin, c'est intolérable et donc il faut arriver à faire en sorte que cette Europe-là, ne perdure pas.
C'est pas le seul sujet massif, si vous me passez l'expression, Pascal Durand, à l'agenda de l'Union européenne dans les années qui viennent. Évidemment, la question de la défense, la question des migrations et la question de l'environnement, je le rappelle. Vous êtes député européen et écologiste. Est-ce que, selon vous, on a vu cette semaine encore des discussions autour du libre-échange international avec la signature d'un certain nombre de traités, avec le Mercosur notamment? Est-ce que, selon vous, très clairement, on peut avoir à la fois une évolution vers de l'environnement, de la politique, des politiques environnementales en Europe et maintenir ce dogme du libre-échange international?
La réponse est dans la question. Évidemment, non. Évidemment non. Le monde a changé et ceux qui considèrent qu'on peut continuer à aller rechercher de la croissance à 0,3% en plus en développant des échanges commerciaux non régulés ou mal régulés.
Et avec les pires pays que sont par exemple le Brésil.
Ils se trompent. La réalité, je parlais tout à l'heure des droits des personnes homosexuelles en Pologne qui sont bafoués. Moi je voudrais quand même dire qu'on est en train de négocier avec le Brésil où là c'est pas simplement des droits qui sont bafoués, c'est des morts.
Il y a quasiment... Quand je parle de pire pays, c'est évidemment le pire pays d'un point de vue environnemental et aujourd'hui
Mais d'un point de vue environnemental, au Brésil, avec lequel Monsieur Juncker est en train de se réjouir d'avoir signé un accord après 20 ans de négociations et à 15 jours de son départ, c'est dire si c'est quelque chose de brillant, c'est-à-dire de ne même pas attendre que la nouvelle commission soit en place pour arracher cet accord, on a quand même au Brésil quasiment une personne assassinée par semaine parce qu'elle défend la forêt amazonienne ou les droits des peuples indigènes. Par exemple. Donc, c'est ce pays-là avec lequel on est en train de négocier. C'est ce pays-là dont on nous explique, alors qu'il détruit à peu près 400 hectares de forêt amazonienne par an. Donc, on voit aussi ce que représente cette destruction planétaire. C'est un adepte de l'ancienne dictature militaire au Brésil qui est au pouvoir. Et on vient nous expliquer qu'il faut qu'on ait un accord de libre-échange avec cette personne parce que, naturellement, elle va tomber dans les droits et les devoirs que l'Europe va lui imposer.
Mais pardonnez-moi, Pascal Durand, mais vous êtes écologiste, mais vous avez été sur la liste Renaissance, et donc qui est une liste libérale.
Alors, c'est une vraie difficulté.
Précision.
Non, c'est une vraie difficulté en France. On ne conçoit pas ce que le mot libéral veut dire en Europe. Le mot libéral en Europe, c'est, par exemple, c'est l'équivalent d'un Obama. Obama était un régulateur, mais c'est un libéral au sens
libéraliste à l'américaine.
C'est
ou à l'anglo-saxonne.
Exactement. Et donc, l'Europe que nous défendons, l'Europe que nous portons, il y a à l'intérieur du paysage européen, on va pas se mentir, mais Pascal Lamy, qui vient des socialistes, en est une illustration la plus totale. Il y a des libéraux au sens économique néolibéral français qui, eux, veulent en réalité plus de commerce, toujours plus de commerce, toujours plus de libre-échange. Et il y a des régulateurs. Et il y a des gens qui essayent de porter la défense des clauses environnementales et sociales européennes. Et moi, je pense et je continue à être persuadé que nous allons arriver à réorienter l'Europe. L'Europe a bougé. C'est-à-dire que nous avons maintenant des clauses environnementales et sociales systématiques dans les accords internationaux. Simplement, maintenant, il faut leur donner un caractère contraignant. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus d'accord sans la capacité réelle d'agir. Et moi, je ne conçois pas qu'on puisse demander à nos paysans, qui ont été pendant des années matraqués à coups d'intrants, de pesticides, etc., et qui ont été financés pour ça, de leur dire du jour au lendemain, il faut que vous changiez, parce que, maintenant, les pesticides, on sait, on connaît les dangers, on sait que les intrants, c'est du pétrole, etc. Donc, il faut que vous changiez vos pratiques. Il faut qu'on arrête l'élevage industriel pour aller...
Et continuer à importer...
Et pendant ce temps-là, on va dire aux Argentins ou aux Brésiliens ou aux Canadiens, les fermes-usines au Canada, c'est 14 000 têtes. Donc, on ne peut pas être dans ces logiques de concurrence. Il faut protéger l'Union européenne. Il faut protéger nos clauses sociales et environnementales.
Merci Pascal Durand, je rappelle, député européen écologiste élu sur la liste Renaissance. Merci beaucoup également à Anne Rovan qui était en direct et en duplex depuis Bruxelles dans le bureau de Radio France. Et donc, ce qui me permet de remercier aussi Lakshmi Lotha qui vous accueillait. Le magazine du week-end, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 12h40. Nous parlerons de la guerre des nerfs entre l'Iran et les États-Unis, ainsi que du Tour de France avec cette question. Le Tour est-il toujours populaire? Merci à toute l'équipe. Programmation Chloé Rossignol, coordination Hugo Boursier, préparation Isé Sorel et Benjamin Teinturier. À la réalisation aujourd'hui, c'était Luc-Jean Reynaud et à la prise de son Nicolas Delmas.